tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel à l'écoute de notre émission.
Bonjour Jérusalem.
Avec en régie Émilie pour évoquer donc la vie quotidienne en Israël.
Alors bonjour Christine et bonjour Émilie. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, comme vous le savez, Elisabeth, nous avons passé 2 mois de grandes vacances et beaucoup de nos auditeurs sont sur le chemin du retour. Bien, mais cela ne nous a pas empêché, bien sûr, d'organiser une émission pour cette fin de mois d'août.
Alors, avez-vous trouvé un thème pour nos auditeurs, Christine ?
Oui, nous allons revenir un petit peu en arrière dans le temps et nous retrouver au moment de l'exode du peuple juif.
Alors, on connaît tous ce moment important, mais pourra-t-on le dater exactement ?
Alors, une courte explication du livre de l'Exode est vraiment nécessaire. Avant tout, au terme d'un processus de sélection qui élimine Ismaël au profit d'Isaac, puis Ésaü au profit de Jacob, l'alliance se concentre sur Jacob, qui reçoit dès lors le nom d'Israël, et ses 12 fils, les fameux ancêtres éponymes des 12 tribus d'Israël. Ce sont eux qui ont créé les 12 tribus d'Israël.
Alors, que nous dit le livre exactement ?
Alors, ce livre de l'Exode se caractérise par l'emploi d'une grande variété de matériaux, c'est-à-dire des narrations, des textes législatifs et aussi des textes culturels. Le tout est organisé selon un ordre chronologique qui fait partie d'une sorte de chronologie des événements qui vont aussi bien de l'oppression des Israélites en Égypte jusqu'au moment où la gloire de Yahvé vient prendre possession de la tente de la rencontre.
Alors, cet ordre chronologique est-il compréhensible lorsque l'on sait que les textes bibliques ne sont pas en adéquation avec les recherches scientifiques ?
Oui, évidemment, bien sûr, il est difficile de comprendre la logique de cette chronique, puisqu'elle relate, par exemple, que bien peu de choses sur la vie des Hébreux durant tout le temps des plaies d'Égypte ou sur les difficultés de la vie quotidienne des familles durant cette fameuse marche au désert ne nous sont pas encore connues à ce jour, mais qui ne nous épargnent d'ailleurs non plus aucun détail sur la construction du sanctuaire et de ses accessoires.
Alors, et c'est un problème ça ?
Oui, bien sûr, c'est un problème, car tout au long du livre de l'Exode, les récits et les lois se succèdent, l'alternance des deux étant un des traits les plus significatifs du livre de l'Exode. Ce phénomène constitue d'ailleurs un des problèmes classiques dans l'exégèse du Pentateuque. Tout le monde connaît le Pentateuque. Quel est le véritable lien entre les récits et les lois ? Lesquels sont-ils chronologiquement les premiers ?
Alors, ce sont des questions épineuses. Si tant est encore maintenant, il est difficile de les savoir.
Oui, tout à fait. Il faut savoir aussi que de nombreux exégètes considèrent que l'installation d'Israël en Égypte pourrait correspondre au règne de Séti Ier, c'est-à-dire de -1310 à -1290.
Avant notre ère.
Oui.
Mais on ne sait pas à quel moment les pharaons d'Égypte ont asservi les peuples juifs.
Ben, il semblerait toujours, d'après les exégètes, les écritures, que la période d'esclavage correspondrait au règne de Ramsès II, c'est-à-dire -1290 à -1224, qui mit en place une série de chantiers importants, ou encore à celui de Merneptah, -1224 à -1204.
Alors, cela veut-il dire qu'il y a eu de vagues de migration ?
Oui, bien sûr, il y en a eu effectivement à l'appui de ces datations. Il y en a eu même plusieurs, dont des sémites semi-nomades qui venaient des régions de Syrie et parmi eux, certains se sont installés à l'est du delta du Nil et furent contraints de travailler pour bâtir des cités.
Alors, a-t-on des indications de ces vagues migratoires ?
Alors, s'il n'existe pas de traces vraiment réelles pouvant attester d'un événement de l'ampleur de ce qui est raconté dans l'Exode, on constate quand même que des contacts ont eu lieu entre le pouvoir égyptien et des sémites semi-nomades, parmi lesquels on compte probablement les ancêtres d'Israël, dans les zones semi-désertiques aux marges de la Syrie et du Sinaï, et dans les zones frontières des cités-états cananéens. Alors, bien sûr, de telles rencontres qui s'étendent sur plusieurs années ont peut-être été rapportées dans la Bible en termes de descente et de séjour en Égypte. D'autre part, on possède également des documents égyptiens évoquant la fuite de petits groupes d'esclaves hors d'Égypte.
Alors, vous parliez de certains exégètes, mais que pensaient donc les autres chercheurs ?
Alors, selon les chercheurs, l'arrivée d'Israël en Égypte se situerait à une époque nettement antérieure à celle de Séti Ier et des pharaons Et en fait, pardon, et les pharaons de l'époque de l'esclavage pourraient être Thoutmôsis II, -1494, -1490, et Thoutmôsis III, -1490, -1436.
Donc à ces dates, il y a la naissance de Moïse, qui coïnciderait alors avec l'expulsion des Hyksos vers 1550 avant notre ère, et qui pourrait expliquer l'oppression subie par les Israélites.
À vrai dire, c'est quand même assez difficile de dater exactement ces événements. Les sources extra-bibliques disponibles étant extrêmement lacunaires et la chronologie de l'Ancien Testament se révélant être plus symbolique qu'historique.
Alors, revenons, Christine, au personnage de Moïse, par exemple.
Alors, en ce qui concerne le personnage de Moïse, il n'existe en fait aucun témoignage explicite en dehors de la Bible, ce qui rend bien sûr difficile toute appréciation historique du contenu de sa biographie. Ce silence des sources extra-bibliques a donné naissance à une série de suppositions, toutes très hypothétiques, parmi lesquelles la négation pure et simple de l'existence de Moïse et le fait de lui attribuer une origine égyptienne, simplement sur la base de son nom.
Alors, si je comprends bien, les nombreux parallèles relevés sur le récit de la naissance de Moïse sont extrêmement difficiles à établir pour discerner le réel de ce qui relève de la légende et des éléments qui pourraient avoir un certain fondement historique.
Ben oui, Élie, et pour n'en citer qu'un, voici brièvement l'un d'eux. Sargon d'Akkad, dit aussi Sargon l'Ancien, est le fondateur de l'Empire d'Akkad. Il régna environ de 2334 à 2284 avant Jésus-Christ. Et la légende raconte que Sargon naquit dans une petite ville au des bords de l'Euphrate. Sa mère, une grande prêtresse qui n'avait pas le droit d'élever d'enfants, le déposa dans une corbeille en réseau et le confia au fleuve. Il fut sauvé par un porteur d'eau du nom d'Aki. La déesse Ishtar le remarqua et l'éleva à la dignité royale, devenant le serviteur du roi de Kish, Ur-Zababa. Sargon parvint au rang d'échanson à la cour du roi, puis de prince.
En fait, que signifie le mot ou le nom Moïse?
Ce que l'on sait d'ailleurs, de toute façon, c'est que la racine que l'on trouve derrière ce nom signifie en égyptien « généré par, fils de ». On la retrouve dans certains noms de pharaons comme Ramsès, fils de Ra, le dieu soleil, Thoutmôsis, fils de Thoth, dieu à tête d'Ibis, dieu des scribes. Donc ce nom égyptien constitue un argument allant plutôt dans le sens de l'historicité du personnage.
Alors, aurait-on inventé de toutes pièces un fondateur du peuple et de la religion d'Israël en l'affublant d'un nom égyptien ?
À mon avis, il semble actuellement illusoire de vouloir donner une interprétation scientifique au récit des plaies qui occupe près de 5 chapitres dans le livre de l'Exode, avant le récit de la sortie d'Égypte. C'est l'aspect théologique de ces signes qu'il importe avant tout de comprendre, car s'ils entendent avant tout présenter Dieu comme le maître de la nature, capable de commander aux éléments, face à lui, ni le pharaon, ni ses magiciens ne sont capables de commander au Nil, aux grenouilles, à la vermine, aux moustiques, aux sauterelles, au vent, à la grêle, à la lumière et aux ténèbres, et même ils sont également incapables d'empêcher les maladies des hommes et des animaux.
Eh bien, c'est bien intéressant, et il faut qu'on réfléchisse là c'est un petit peu. Pour ça, je vous propose une petite pause musicale. Et après, nous allons continuer sur l'épisode de l'Exode. sur Radio Grand Ciel et nous vous présentons notre émission « Bonjour Jérusalem ». Et Christine nous parle aujourd'hui de l'Exode.
Eh bien, nous savons donc que dans la tradition biblique, c'est l'Exode, la sortie d'Égypte, qui constitue l'un des événements fondateurs d'Israël. Cependant, sur le plan historique, cet événement n'a lui aussi laissé aucune trace dans l'histoire égyptienne.
Et comment peut-on connaître alors l'origine de cet événement ?
À vrai dire, c'est difficile de remonter véritablement à l'origine de l'événement. Mais quoi qu'il en soit, Israël a relu cet événement comme la première manifestation du Dieu d'Israël, sauveur. Et c'est parce que Israël se reconnaît sauvé par son Dieu qu'il accepte de vivre dans son alliance, en suivant sa loi, bien sûr.
Alors, pour revenir au mot Exode, Christine, le mot, que signifie exactement ?
Alors, dans la tradition biblique, l'exode, du terme grec « ex-odos », signifie « chemin de sortie » vers l'extérieur. Et comme je l'ai précisé plus haut, la sortie d'Égypte constitue l'événement fondateur d'Israël. On retrouve cet événement également dans les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome.
Alors, on sait qu'après la sortie d'Égypte, une longue marche a suivi dans le désert.
D'ailleurs, on sait aussi que ce récit s'achève à la mort de Moïse quand Israël se trouve dans les plaines de Moab et s'apprête enfin à entrer en terre promise sous la conduite de Josué.
Alors, que peut-on dire de l'historicité de ce récit ?
Et les rencontres qui s'étendent sur plusieurs années ont peut-être été rapportées dans la Bible en termes de descente et de séjour en Égypte, mais on possède également des documents égyptiens qui évoquent la fuite de petits groupes d'esclaves, comme je le disais tout à l'heure, hors d'Égypte.
Alors, tout à l'heure, vous indiquiez aussi que pour la majorité des exégètes, ce récit combine deux traditions très anciennes.
Effectivement, car ces récits sont repérables, grâce à un certain nombre de ruptures narratives et d'incohérences. Par exemple, la mer est-elle asséchée par un vent violent ou coupée en deux, formant ainsi une muraille ?
Alors, qu'en est-il alors du premier récit ?
Eh bien, dans ce premier récit, version de l'assèchement des eaux, Pharaon et son armée poursuivent les fils d'Israël et les rejoignent dans la soirée sur le rivage de la mer. À l'approche de Pharaon, Moïse rassure les Israélites poursuivis. Il leur dit « Yahvé vous protège et combattra pour vous ». De fait, une colonne de nuée s'interpose entre les deux camps, interdisant ainsi aux Égyptiens de s'approcher davantage. Et Yahvé refoule la mer par un grand vent d'est qui assèche la mer et livre ainsi passage aux fils d'Israël. Au matin, Yahvé jette la panique dans le camp des Égyptiens qui tentent de s'enfuir mais qui n'y réussissent pas du tout.
Alors c'est ce jour-là qu'Israël a été sauvé de la main des Égyptiens par Yahvé, n'est-ce pas ?
Oui, Élie. Quant à la deuxième version, bien sûr, récit de la division des eaux, elle commence par une phrase de Dieu à Moïse. Israël doit rebrousser chemin et camper au bord de la mer.
Et que dit cette deuxième version ?
Après que les Égyptiens ont rejoint les fils d'Israël au bord de la mer, Yahvé ordonne à Moïse d'étendre la main sur la mer pour en diviser les eaux et permettre ainsi aux Israélites de passer à pied sec. Et quand ils arrivent de l'autre côté, Yahvé ordonne une seconde fois à Moïse d'étendre la main pour que les eaux refluent sur les Égyptiens et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée sont ainsi exterminés.
Alors Christine, qui sont alors les principaux personnages de cette histoire ?
Alors d'une part, on sait il y a le Pharaon et les Égyptiens et d'autre part, il y a Moïse et les Israélites. Mais en fait, c'est Dieu qui en est le principal et qui conduit toute l'action, notamment par sa parole. D'ailleurs, il est décrit un peu à la manière d'un général en campagne qui fait preuve de stratégie.
Et pour le Pharaon ?
Eh bien, pour Pharaon, il est présenté comme un guerrier, un combattant, accompagné de son armée, et il incarne les puissances du mal et de la mort depuis le début de l'Exode, au moment où il ordonne à son peuple de jeter à l'eau tous les fils des Hébreux qui viennent au monde. Par son opposition à Israël, par son refus d'écouter Moïse, il apparaît alors comme un opposant au dessein même de Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la première violence du récit, au début de l'Exode, qui plus est sur des victimes innocentes, les enfants des Hébreux.
Et donc, Pharaon qui donne la mort pour qu'advienne la vie et pour que le mal soit éradiqué. Christine, cette sortie d'Égypte vers la terre promise se poursuivra après toute mainte péripétie, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, on va changer de sujet et pour cela, on va peut-être vous proposer une nouvelle pause musicale.
Oui.
Voilà, et on reviendra sur l'antenne après. Mmh. venons d'évoquer l'Exode et la fuite d'Égypte des Hébreux. Et donc, nous nous retrouvons de nouveau dans les studios de Radio Grand Ciel pour parler de cette période-là et de la suite, de ce qui s'en est suivi. Alors, Christine.
Alors, cette sortie d'Égypte, en fait, se poursuit par un autre événement très important qui est l'arrivée au Mont Sinaï, c'est-à-dire anciennement Horeb, lieu de l'alliance avec Dieu.
Et c'est à cet endroit que Dieu a établi un code de l'alliance, c'est-à-dire un ensemble des lois.
Oui, bien sûr. Mais avant, il y a eu la marche à travers le désert, qui trouve sa place dans ce récit entre celui de la traversée de la mer et l'alliance au Sinaï.
J'imagine que cette traversée du désert fut une très très grande épreuve.
Ben oui, imaginez-vous, 40 ans dans le désert, ça ne doit pas être évident. Le peuple d'Israël a dû bien sûr affronter de grandes difficultés comme la faim, la soif, le vivre ensemble et les diverses attaques ennemies d'autres peuples.
Alors comment cela s'est passé ?
En fait, 3 jours après la sortie d'Égypte, le peuple commence déjà à récriminer. D'abord pour réclamer de l'eau, ensuite de la nourriture et encore de l'eau. Dieu y répond positivement par l'intermédiaire de Moïse, en indiquant toutefois qu'une plante pour purifier l'eau amère, puis en envoyant la manne et l'écaille, puis en faisant sortir de l'eau d'un rocher.
Alors tout rentre dans l'ordre alors?
Oui, si on peut le dire, et sur les conseils de son beau-père Jéthro, Moïse organise le peuple en nommant des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines, chargés de rendre la justice.
Alors ainsi, après l'expérience de l'Exode, le peuple va faire l'expérience de l'alliance avec ce Dieu, n'est-ce pas?
Tout à fait, mais auparavant, il faut savoir que traditionnellement, on identifie le mont Sinaï au Djebel Moussa, c'est-à-dire dans la partie méridionale de la péninsule, et c'est là que se trouve en effet le fameux monastère grec orthodoxe de Sainte-Catherine que
voilà,
tout le monde connaît.
On en a parlé il y a quelque temps,
oui,
déjà,
voilà,
au cours de notre émission. Alors, est-ce donc au mont Sinaï qu'Israël a devenu un peuple finalement?
Là, nous sommes un peu forcés de reconnaître que la localisation exacte du Sinaï échappe aux chercheurs. Et c'est bien pourquoi on dit qu'Israël peut vivre comme un peuple sans terre, sans roi et sans temple, puisqu'il est le plus ancien que la conquête de la terre, que la monarchie et même que le temple de Salomon.
Alors parlons un peu de la loi d'Israël, Christine, maintenant.
Alors, dans la plupart des religions païennes, les hommes sont créés pour servir les dieux, qui leur seront favorables si, bien sûr, ils sont satisfaits de leur service. Voilà. Alors, ici, dans ce contexte de la loi d'Israël, Dieu s'engage sans contrepartie, ou plutôt selon des contreparties qui sont des impératifs, en fait, et qui ont pour but de conduire le peuple vers une vie meilleure.
Alors c'est bien la raison d'être de cette loi.
Tout à fait, puisque effectivement le droit d'Israël promulgué sur le mont Sinaï est différent des droits connus dans le Proche-Orient ancien, du fait que sa validité n'est liée à aucun territoire et que l'autorité qui le sanctionne n'est pas une autorité traditionnelle d'une monarchie, mais de celle d'un dieu.
Donc le droit d'Israël est fondé sur le consensus et non sur la contrainte.
Tout à fait, puisqu'Israël s'engage à mettre en pratique ses exigences. Et il faut rappeler aussi que cette loi débute non pas par un impératif, mais par un indicatif. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Alors si je comprends bien, Dieu exige donc d'Israël une fidélité absolue, un culte exclusif, impliquant par là de n'avoir pas d'autre Dieu.
Et oui, évidemment, et il en est de même, bien sûr, du fameux jour du sabbat qui doit justifier de la pratique du repos hebdomadaire en le reliant au repos divin, c'est-à-dire le 7e jour de la création. Les devoirs envers les proches touchent à tout ce qui est central dans le monde antique, c'est-à-dire la famille, la maison et les fameux moyens essentiels de subsistance.
C'est ce que l'on retrouve aussi dans notre monde moderne d'une certaine façon.
Tout à fait, c'est ce qui a pour objectif de rendre la vie en société meilleure tout en se libérant de la convoitise.
Alors comment sait-on le récit de l'Exode, que le récit de l'Exode commence en Égypte, continue à Madian et où Moïse s'était réfugié et finit par la délivrance du peuple toujours en Égypte?
Comment on le connaît? Eh bien c'est au cours du passage de la mer que Dieu se révèle et fait des promesses qui sont la libération, l'alliance et l'adoration.
Alors, peut-on détailler ces trois promesses ?
Oui, bien sûr. Alors, on va commencer par la première, hein, la libération qui est annoncée, mais qui est différée à cause des dix plaies. Hein. L'alliance au Sinaï survient, elle, dans l'épisode de l'eau de Massa et Meriba, et l'adoration réalisée avec toute une série de prescriptions concernant le culte et le sanctuaire, et la mise en œuvre des instructions données par Dieu lui-même.
Alors, on parle aussi de la descendance d'Abraham.
Alors cette descendance nombreuse annoncée par Dieu trouve enfin sa réalisation au début du livre de l'Exode, là où il est écrit que les descendants des 12 fils de Jacob venus en Égypte à cause de la famine se multiplieront dès la génération suivante.
À cette mention de la prospérité marque donc une rupture et le passage à une autre période de l'histoire d'Israël.
Voilà, c'est précisément contre cette multiplication des fils d'Israël que Pharaon s'inscrit. Alors, s'inscrit donc lorsqu'il tente effectivement d'enrayer la croissance du peuple, allant jusqu'à faire jeter les bébés dans le Nil.
Quel est le cadre de la rencontre entre Dieu et Moïse ?
Alors la rencontre entre Dieu et Moïse a pour cadre une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Hein. Dans une culture qui utilise peu de concepts pour exprimer sa représentation de Dieu, les images sont importantes et particulièrement significatives de la manière de penser Dieu et ses relations avec les humains.
Alors si on parle de cadre, ici c'est donc la montagne qui fait l'office de lieu de rencontre, n'est-ce
pas ? Tout à fait, exactement. Elle est accompagnée d'une nuée d'éclairs, d'éléments déchaînés. La scène est impressionnante. La Bible utilise des images très différentes pour mettre des mots sur la rencontre avec Dieu. Aussi, lorsque le prophète Élie rencontre à son tour Dieu sur l'Horeb,
le mont Sinaï,
il choisit de se manifester dans la voix d'un silence subtil ou par le bruissement d'un souffle ténu.
C'est poétique tout ça. Alors, que dit exactement cette alliance ?
Alors, d'abord, il y a le rituel d'alliance offert sous forme de promesse et celui du peuple sous la forme d'une adhésion solennelle et entière au projet divin.
C'est donc dans ce contexte que Moïse fonctionne comme un médiateur.
Oui, on peut dire ça. Hein. La position géographique des deux partenaires indique d'ailleurs qu'ils ne sont pas égaux. Hein. Dieu est sur la montagne et le peuple est en bas, hein, dans la plaine. Cette relation ne se situe pas sur un plan horizontal mais vertical.
C'est donc bien Dieu qui est à l'initiative de la démarche.
Tout à fait. À l'évocation du passé, avec le rappel de la libération d'Égypte et de la marche dans le désert, on peut considérer que c'est un peuple libérateur.
Et Moïse fait son rapport au peuple.
Ah oui, tout à fait. À chaque fois qu'il a une conversation avec Dieu, il marque son accord de principe face à la proposition divine. Et ensuite, il s'engage par sa promesse à ce que Israël s'engage à son tour. Et c'est sur la base de cette volonté commune d'engagement réciproque que le processus d'alliance va pouvoir être mis en mouvement.
Voilà. Une autre question m'interpelle. Comment se fait-il que Dieu et Israël se sont rencontrés ?
Eh bien, pour pouvoir s'approcher de Dieu, Israël doit être en quelque sorte soustrait à la sphère profane pour être capable de communication avec Dieu. Les rites qui sont prescrits par le Seigneur à Moïse sont significatifs de cette rupture. On doit laver ses vêtements, qui est un geste de purification, de rupture avec le passé d'esclavage. Le fait de s'abstenir de relations sexuelles et à comprendre au sens où, selon une conception ancienne, la relation sexuelle est censée rendre impure, c'est-à-dire impropre à poser un geste relevant du sacré. L'approche du sacré demande d'effectuer une rupture par rapport au quotidien, même bon.
Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Comment ?
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ben, ça veut dire que si on respecte les prescriptions données par Dieu, on entre plus facilement dans le sacré, dans l'approche avec Dieu.
Donc
Je voulais vous dire. Hein, Plus on est proche du sacré et plus on est proche en relation directe avec Dieu. Enfin, en gros, c'est à peu près ça.
Ouais. D'accord. C'est aussi un mouvement, n'est-ce pas ? Le peuple vers la montagne et le Seigneur qui descend la montagne.
Oui, mais je voulais aussi rajouter quelque chose en ce qui concerne justement cette rencontre entre Dieu et Israël. Il faut savoir que Moïse doit préparer l'espace aussi de la rencontre. Mm-hmm. Alors, une séparation radicale entre sacré et profane doit être maintenue, ce qui est rédhibitoire, on va dire. Mm-hmm. Tout contact indu avec le sacré provoque la mort. C'est radical. Il est vrai aussi que toute rencontre nécessite la distance. C'est tout autant radical. L'alliance n'est pas un processus de fusion, mais l'altérité des partenaires y est vraiment respectée. La délimitation de l'espace de la rencontre symbolise aussi ce concept.
Tout ça, voilà, ouais. Et tout ce mouvement, voilà. Donc, dont on a parlé. Alors,
c'est vrai que c'est un mouvement qui...
On se rejoigne finalement.
On se rejoint.
Bon, alors... C'est magnifique, toute cette histoire-là. Je crois qu'on en a retenu une bonne partie parce que c'est très savant. Bravo, Christine.
Merci
beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce retour.
Moi, j'ai apprécié, moi.
De la préparer.
Moi, voilà. J'ai aimé préparer cette émission.
Merci beaucoup.
Merci.
Et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine émission. Bonjour, Jérusalem.
Merci, au revoir à tout le monde.
Au revoir.
Name of